Notre dernier podcast, c'était le podcast Bilan 2017. On a donc raté pas mal de films en ce début d'année. On va un peu remonter sur les films qui sont toujours en salle et qui sont sortis depuis janvier, février. On va commencer avec un film qu'on a beaucoup aimé. Alors, je dis « on ». Justement, je me mets peut-être en réserve de ce « on », mais on va en discuter. Qui est Battleship Island, donc qui est le dernier Ryo Seung-wan.
Dernier chef-d'œuvre.
On va en discuter, qui est sorti le 14 mars dernier. Bonjour Martin.
Bonjour à tous, enchanté.
Merci de nous avoir rejoints donc, pour parler de ce qui est pour toi, je m'en rappelle, le seul film de 2017. Est-ce que tu peux nous représenter brièvement
le seul film de 2017, film. En gros j'avais un peu la flemme de retrouver, en fait récemment c'était le seul qui m'avait vraiment marqué, voilà, en termes de divertissement. Et du moins il a coché à peu près toutes les cases de ce que j'attends moi... dans un bon film, si vous voulez. Après, crier au chef-d'œuvre, je pense, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais vraiment content de revoir Ryo Seung-wan. C'est déjà un manque, c'est-à-dire que vétéran, on a pu tous le découvrir et l'apprécier, en tout cas.
Il y a deux ans.
Exactement, ouais. Au FSCP. Et voilà, contre toute attente, aucune sortie en France, même pas en VOD, il a été complètement oublié. Alors que c'est vraiment un très bon film d'action, bien mené, rythmé, et en plus avec un très bon humour. Et donc bah, là, il faut dire qu'on était hyper fébrile à l'idée justement de le revoir. Et bah, il n'a pas déçu. Il n'a pas déçu parce que pour moi, c'est vraiment un cinéaste qui fait une espèce de montée en puissance dans sa filmographie. Quoi. C'est-à-dire qu'il a vraiment commencé petit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, son tout premier film, son premier long métrage, était une succession de courts métrages qu'il a réalisé, produits par différentes personnes. Et il s'avère qu'ils avaient tous un lien. Et puis après, il pouvait les présenter d'un seul tome. Et au fur et à mesure, il a commencé à faire des films où il tentait de plus en plus de choses. Voilà, c'est-à-dire qu'il gagnait en confiance, et puis il avait de plus en plus de budget, et puis bah, pour arriver au final, voilà, à cette espèce de grande fresque, si vous voulez. Voilà, c'est une espèce de grand film d'aventure, si vous voulez, un peu comme vous pouvez le voir il y a 50 ans à Hollywood, avec des films comme La Grande Évasion et tout ça. C'est un film qui prend vraiment un contexte réel et qui après prend certaines libertés avec l'histoire pour donner du grand spectacle, mais vraiment, voilà.
Est-ce que tu peux nous rappeler, peut-être brièvement, le contexte du film Battleship Island, dans les grandes lignes, voilà.
On est vraiment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et comment dire, on suit que, un père coréen qui tient une troupe de jazzmen et tout ça, et qui joue, comment dire, pour des officiers japonais. Il se retrouve, comment dire, envoyé dans une île, en vérité, qui se trouve, comment dire, je crois que c'est en face de Busan, hein, si je ne me trompe pas, et en gros, c'est une île coréenne, en gros, c'est l'île qui sert, en vérité, de mine de charbon pour, comment dire, alimenter la guerre japonaise dans le Pacifique. Et en gros, les gens sont traités de manière absolument atroce. C'est voilà, de l'esclavage à l'état pur, hein, si vous voulez.
Le film, c'est vrai, commence de manière très classique. Avec, oui, voilà. Des gens, en fait, on nous montre la situation et un groupe de personnes essaye de s'évader de l'île. L'évasion rate. Oui. Et ensuite, on suit différentes personnes qui vont se retrouver.
Donc ce personnage, donc le père et sa fille, sa troupe justement, et puis d'autres personnages satellites, voilà, qu'on va suivre. Donc vraiment, l'exposition est très bien faite. On sait déjà qui est qui et qui est envoyé à quel endroit on mettait dans le livre. Donc il arrive tout de suite à nous planter le décor, le contexte et puis la géographie du lieu, qui est quand même assez incroyable, quoi. Et après, là, ça va vraiment monter crescendo. C'est-à-dire, au départ, ben voilà, c'est comment s'intégrer dans cette île. Finalement, les rouages, les règles, finalement, entre les esclaves, si on veut, et puis les Japonais, et puis la façon qu'ils gouvernent de manière très sévère. Hein. Donc là-dessus, il y a peu de subtilité, on va dire. Hein. C'est quand même, les Japonais sont des vrais salauds.
On va dire.
Donc voilà. Après, voilà, c'est...
Les minous rigoleraient, hein.
Bon, après, on parle, comment dire, et c'est pas les Japonais, c'est l'Empire japonais. C'est là-dessus où on fait une différence, et quand même, elle est toujours représentée par les militaires. Donc, comment dire, c'est, voilà, c'est, On a bien aimé avoir un autre personnage qui puisse contrebalancer, mais je pense que c'était pas le but du sujet. Là, c'est vraiment un film, voilà, de d'évasion, si vous voulez. Donc, avec tout ce qu'il y a de trahison, de complicité, de révélation, si vous voulez. Et on va vraiment monter crescendo. Alors, au début, en effet, il y a toutes les scènes dans la mine qui sont claustrophobes au possible. Il va faire des scènes qui sont assez incroyables, hein. Je me souviens bien avec,
la scène de la douche.
Hein?
Dans la douche.
Oui, dans la douche, mais il y a la scène, le chariot qui déraille et tout ça, qui remporte tout. Enfin, voilà, il y a quand même. Mais à chaque fois, il grimpe d'un cran, avec, en tissant, soigneusement toutes ces intrigues qui vont toutes vraiment revenir comme dans un entonnoir pour se révéler dans les dernières scènes. Il y a pour arriver après, dans un premier temps, une scène de bombardement allié sur l'île qui est vraiment spectaculaire, mais c'est pas du CGI, quoi. Vraiment, on voit que c'est tourné en plateau, ils font tout péter à côté, il y a de la flamme, enfin, on a chaud, quoi. Donc c'est là où c'est quelque chose qu'on ressent presque plus au cinéma, c'est ça qui est terrible, quoi. Donc, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment, il a vraiment fait un film à l'ancienne.
C'est organique.
C'est exactement. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de CGI de temps en temps, mais vraiment, c'est pour toujours compléter. Mais vraiment, il veut vraiment faire du plateau, il veut que les gens ressentent les trucs. Et quand vous voyez le making-of, voilà, qu'ils ont quand même tourné tout le truc sur place. Donc, c'est quand même assez incroyable, quoi.
Personnellement, je suis assez content que tu ne cries pas au chef-d'œuvre, comme Kefren a crié au chef-d'œuvre.
Tout le monde a crié au chef-d'œuvre.
Et tout le monde a crié au chef-d'œuvre. Et moi, c'est un peu le problème. Je l'ai vu un peu
à rebours,
ce film.
Quoi que les gens crient au chef-d'œuvre, c'est un problème.
Et en fait, je m'attendais à voir du Peckinpah, à voir du Sergio Leone. Et en plus, Sergio Leone est convoqué par Yosun Wan. Littéralement cité. Et quand on voit la rupture qu'il y avait, la rupture critique, c'est-à-dire. Peckinpah et Leone changeaient la matière cinématographique quand ils faisaient un western, quand ils faisaient un film de guerre pour Peckinpah, c'était le cas avec Croix de Fer par exemple. Alors que là, Ryo Sung-wan fait un film qui s'inscrit complètement dans ce qu'on voit du blockbuster coréen d'aujourd'hui, en l'amenant juste à un niveau technique qui est effectivement impeccable.
Pas que technique, aussi artistique.
Non, mais je trouve que artistiquement, le film ne fait que ressasser des plans de caméra que j'ai déjà vus dans. Dans d'autres films coréens, dans d'autres films sur la guerre.
À ce niveau-là, vraiment, il y a des choses.
J'ai rien eu de nouveau dans le film. J'ai vu un bon produit, mais j'ai rien eu qui m'a transcendé. J'ai pas retrouvé ce côté organique non plus dans les batailles.
Si je peux me permettre.
La scène de la douche.
Là, la scène de la douche, c'est-à-dire qu'il monte vraiment crescendo, et si tu veux, vraiment, là où il arrive sur les 40 minutes, et qu'il va. Introduire finalement que la musique de Leone, c'est-à-dire que là il met carrément ses couilles sur le plateau, quoi. Il fait bon, ok, rien à peu ce que je vais faire. Et moi je me disais putain, il ose faire ça, et c'est quand même, en plus, c'est pas la part laquelle, c'est celle de lui.
Je voyais les raccords de Sergio Leone, je voyais exactement les raccords de Sergio Leone et l'audace de montage de Sergio Leone. Et je ne voyais pas ce que montrait Sergio Leone.
Moi je trouve que
je me disais, mais il y a Sergio Leone qui faisait ça il y a 50 ans. Enfin, là, je vois juste une scène de guerre.
Je sais pas, les scènes de guerre, comment dire.
Je ne sais pas le drapeau du Japon, de l'empire japonais.
C'est une autre problématique.
Elle n'est pas sur la scène d'action, elle est sur l'introduction, en vérité, là où ça va tout déraper et ça va partir. Et je trouve que justement, elle est.
Mais c'est pas une scène d'action normalement, la production non plus.
Non, mais je sais bien, mais en tout cas, elle fait monter la pression, en tout cas, jusqu'au moment de rupture. Et là, elle mène de manière subtile et vraiment. Et c'est ça que là, j'ai trouvé fort. C'est que je me dis, il aurait très bien pu se planter comme le pouvait faire Tarantino. Et je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Tarantino ne sait pas utiliser Leone. Morricone l'a dit d'ailleurs.
C'est un autre débat.
C'est un autre débat, on revient pas là-dessus.
Et Morricone peut dire ce qu'il veut, mais l'utilisation. Au moins, Tarantino, il fait autre chose avec. J'ai pas les images de.
En fait, on n'a jamais dit que.
Déjà, d'une part, il ne singe pas Leone, au Sun One. Et en plus, il arrive sur un final qui est complètement dément. C'est-à-dire, ça fait des années que j'ai pas vu ça au cinéma, et j'ai vraiment, j'ai joui, enfin, de l'œil, en tout cas, voilà, c'est visuellement. C'est-à-dire qu'il y avait des plans, tu vois, les strates, de plans, entre les premiers et les arrière-plans, tout ce qui se passait,
c'est complètement. Il y a une profondeur de champ qui est complètement.
Mais voilà.
Je me fais attaquer de partout, du coup on a dit qu'on passait 10 minutes par film.
Du coup, on est quand même à l'heure de Marvel et de Ready Player One. Et c'est un drame,
on est sûr qu'on va sur Battleship Island. Nicolas.
Non, juste pour te dire, en fait, depuis tout à l'heure, tu dis que tu t'attendais à un film qui révolutionne, qui retransforme. Si tu écoutes nos précédents podcasts, on n'a jamais dit que c'était un film qui révolutionnait le film de guerre. On a juste dit que c'est un film qui transcendait le divertissement
dans le grand public.
Entre guillemets. Pour moi, oui, il reprend des plans. Il l'a dit d'ailleurs, il s'inspire énormément du cinéma hongkongais, d'autres films de guerre coréens. Mais il reprend des plans, mais pour moi, il les transcende. C'est-à-dire qu'il arrive à faire la bataille les 40 dernières minutes. C'est pour moi, elle est quasi parfaite. Quoi. C'est-à-dire chaque plan, le montage, l'utilisation de la musique, la manière dont il fait monter la pression, qui rend le tout épique. Pour moi, c'est quand je vois sur un grand écran dans une bonne salle, et ben c'est du pur cinéma de divertissement, et je m'en prends plein la gueule. Et je suis super content en sortant de la
Justin,
salle.
Justin, un mot, Elias, pour conclure.
Et puis en plus, à la manière dont il a introduit les personnages pendant la première heure et demie, ça rend d'autant plus fort le final, parce que j'ai l'impression qu'en fait, Victor, que c'est plus l'accueil, si tu l'avais vu vierge de toute information, peut-être que tu aurais mieux apprécié, mais là, je sais pas, tu t'attendais à une révolution du fait des dithyrambes qu'il y a eu, au lieu de le voir, comme...
Non, mais j'avoue que j'ai une confirmation aussi, le cinéma de Ryo Seung-wan, je suis pas très fan non plus, de ses autres films, je trouve que c'est un bon artisan, je trouve un peu prétentieux par rapport à ce qu'il a la capacité de faire. Après, je trouve qu'il fait plutôt des bons films, mais je ne trouve pas que ce soit un grand cinéaste. Donc, après, c'est possible que je m'attendais aussi à un bon film.
Là, c'est quand même...
Mais ce film a la prétention de s'afficher. Il arrive dans une fin de cycle, quand même, où le cinéma coréen, on a l'impression qu'il passe à autre chose et qu'il délaisse un peu cette période historique de la période d'occupation japonaise et des films de guerre qui se passent à cette période. Et il arrive quand même avec cette prétention. J'ai l'impression, en disant, je fais le film de guerre ultime sur cette période qui condense tout ce qui a été fait. Donc, effectivement, j'ai eu les retours,
s'en sort parce...
mais le film a cette prétention.
Quand même. Mais surtout, je pense que les films sur cette période, ils ne font que commencer, en fait.
On en a eu beaucoup, quand même.
On a eu beaucoup de musées des dernières années, mais avant, il n'y a eu quasiment rien, en fait. Et c'est depuis peu, en fait, qu'on a commencé.
Depuis 3 ans. Enfin,
oui, mais voilà, mais n'empêche, je ne pense pas que c'est le film terminal, je ne pense pas que, comme pouvait le faire Kim Ji-moon avec J'ai rencontré le diable, où voilà, il faisait l'ultime film de vengeance, après des merteaux pour en faire un, hein, c'est mort. Là, il fait juste un très grand spectacle. Et je pense qu'en vérité, il essaie de se poser les jalons.
Quand je disais ça, c'était plus que j'ai l'impression que le cinéma coréen, on en avait parlé au débat sur le FFCP, était prêt à passer par exemple à la critique des années 80, à la critique de la dictature, à une période différente pour écrire son roman national en fait.
Oui,
il n'a plus besoin de piocher dans cette période un peu fédératrice de l'occupation japonaise. Donc c'est pas forcément une fin de cycle en termes artistiques, mais en termes de besoins et de ce qu'attend le public.
Le film, pour moi, j'ai pas vu comme une espèce de critique de l'occupation. Enfin, il se sert en tout cas d'un épisode, en tout cas, qui a été malheureux, certes, mais en tout cas, lui, c'est comme, comment dire, l'exemple que je donnais pour la Grande Invasion, c'est exactement ça. C'est,
oui, parce qu'il est un architecte
pour faire un grand film d'aventure. C'est rien plus que ça, mais sauf qu'il est parfaitement exécuté. Il y a du grand drame à la coréenne, comme ils savent très bien le faire, et en tout cas, on voit qu'ils manient bien cet outil. Il y a des bons personnages, les acteurs sont vraiment donnent des performances absolument incroyables. Et voilà, c'est vraiment un bon artisan, mais je pense qu'il s'est jamais proposé comme certains de ses congénères, notamment, je pense, Bong Joon-ho et tout ça, à être des grands cinéastes politiques, si tu veux, en tout cas, qui font des grandes métaphores sur la Corée et tout ça. Lui, en tout cas, il est beaucoup plus modeste sur sa façon de travailler, en tout cas. C'est vraiment un très bon artisan, faut le voir comme ça. Ses prochains films, je regrette malheureusement, mais ça va être en tout cas des suites. Il va faire en tout cas Berlin Fight 2. Bon, on l'attendait, hein, c'est quand même c'est Jason Bourne en bien. Donc c'est au moins rien pour ça, c'est à beaucoup. Et en tout cas, Vétéran 2. Bon, pourquoi pas, j'ai beaucoup aimé le premier, il m'a beaucoup diverti, j'ai rigolé, c'est super fun. Je préférais qu'il continue sur d'autres choses. Voilà. On verra par la suite, mais en tout cas, c'est un mec sur lequel il faut compter parce qu'il est doué.
Ouais. Très bien. Alors, le film Battleship Island est en salle depuis le 14 mars au Publicity System. Il est toujours en salle. Donc là, ça fait un mois qu'il est...
Et la copie tourne en province aussi. Il y a une copie qui tourne en province.
Et apparemment, ça attire quand
même... Et ça marche bien.
Ça attire du monde. Donc
et il y en a qui regrettent de ne pas l'avoir pris dans leur salle, je pense.
Ouais.
Bah, il peut y avoir du coup, enfin voilà, si ça tourne en province, du coup il y a des exploitants
qui peuvent se réveiller. C'est pas plus mal que ça commence plus tard,
on continue à en parler.
J'ai mis les bonnes annonces sur tous les téléviseurs de boulanger depuis un mois.
Ah, bah, c'est grâce à toi du coup.
Exactement.
Que le film marche. Alors on va être beaucoup plus rapide sur les autres films, d'autant que ce sont des films dont on a déjà parlé. Mais il y a un film qui nous avait un peu échappé, on en avait parlé très brièvement, et qui en plus est dans l'actualité puisqu'on parlait de la succession de Takahata, donc qui vient de nous quitter, et le nom de Yone Hayashi avait pu être évoqué à un moment donné au sein des studios Ghibli comme successeur notamment de Miyazaki à une époque.
Brièvement.
Et là il a
très vite fait quoi, genre en se mouchant quoi.
On y arrive donc. Il vient de sortir Marie et la fleur de sorcière, donc qui est en salle depuis le 21 février, qui marche aussi très bien en France.
Bon,
c'est un vrai succès. Il est toujours en salle.
C'est le Ghibli, les mecs sont là.
Aussi Miyazaki.
C'est le premier film des studios Ponoc, donc qu'il a créé il y a à peine un an, un peu plus d'un an. Le film s'est fait très très vite en un an. Ça se voit beaucoup quand même, quand on considère les qualités du film. Mais le film a certaines qualités, je crois, Justin, que tu as plutôt bien aimé. Est-ce que tu peux nous le présenter brièvement?
Oui, alors donc c'est. Donc, comment dire? Donc c'est. Le souci du film, principal défaut.
Ah, tu commences comme ça?
Oui, comme ça, on va dire les choses positives après. Le principal défaut du film, c'est ce qu'on avait avec tous les autres films de ce réalisateur, que ce soit Arrietty, Marnie, donc c'est le manque de personnalité. Voilà, ça serait qu'il y aurait écrit Ghibli, que ça serait pareil.
Oui, mais Marnie avait de la personnalité.
Oui, oui, mais il manquait d'aspérité quand même. C'était assez, assez creux quand même.
Bien,
et donc c'est le principal défaut. Donc là, voilà, on sera en terrain connu. Vous penserez à Kiki la petite sorcière, entre autres.
Tous les Miyazaki, c'est un melting pot.
Voilà, c'est un melting pot. Donc ça, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un film dans l'héritage, dans le sillage. Il n'y a pas de problème pour le reconnaître. Après, on peut admettre que c'est plutôt bien fichu. L'univers, l'héroïne est plutôt attachante. L'univers, espèce d'univers steampunk, fantasy, qui mélange un peu tout ça. Visuellement, c'est plutôt quand même pas mal. Il y a les personnages, le questionnement, on va dire, scientifique sur l'usage des sciences. C'est pas nouveau, mais c'est plutôt fait de manière efficace dans le film. Les questionnements sont intéressants. Donc, rien de révolutionnaire, on sera tous d'accord là-dessus. Mais honnêtement, c'est un bon divertissement qui se regarde tout à fait bien. Même si voilà, l'héritage est encore là, pesant. On attend de voir les autres films de Ponoc pour avoir un peu plus de personnalité ou un peu plus de détachement de l'héritage. Mais honnêtement, là, il n'y a rien de honteux. C'est plutôt un bon divertissement qui se regarde très bien, une héroïne attachante. Moi, j'ai passé un bon moment. Et c'est plutôt mieux fichu que ce qu'il a pu faire avant, parce qu'en plus, même au niveau du rythme, que ce soit Arrietty ou Marnie, il avait du mal à exploiter ça jusqu'au bout.
Un peu, désolé.
Ouais, quand même, j'aime pas beaucoup ces présents en film, mais on sent qu'il y a quand même la machine Ghibli derrière qui permet d'avoir une qualité, au moins, voilà, une tenue de l'animation globale qu'on retrouve pas toujours quand même dans Marie et la fleur de la sorcière.
Je trouve quand même que ça se tient.
Où il y a des scènes, c'est pas bâclé, mais c'est quand même assez vite fait.
C'est quand même les techniciens Ghibli aussi.
C'est les techniciens Ghibli, mais on voit que ça a été fait dans un temps rapide, qu'il n'y a aucune imagination dans le film. Il y a vraiment des choses qu'on a dit.
Ça reprend certaines figures des films de Miyazaki, et pour les retransformer dans autre chose, non, ça les reprend, c'est tout, point. Il n'y a même pas d'inventivité.
Enfin, je pense que c'est un film.
Il y a la séquence d'intro, je trouve, la séquence...
Si Ghibli existe, c'est bien, en fait.
Et la séquence d'intro est très bonne, par exemple. Tu dis dès le départ, et tu dis ouais, ça au moins il va y avoir quelque chose.
Le final aussi, moi je trouve le final.
Ouais, le final, ça n'arrive jamais au niveau de l'intro. L'intro, elle dure quoi, 5 minutes? C'est la sorcière qui s'échappe, s'échappe. Et ouais, là, c'est vraiment impressionnant. Tu dis ouais, si c'est comme ça tout le film, ça va être bien et tout. Et en fait, non, il se passera plus rien après. Enfin, tu as exactement le parcours atypique que tu as déjà vu 150 fois de héroïne de Ghibli qui va découvrir un...
Donc typique du coup,
oui,
typique
pardon, oui. Qui va découvrir un nouveau monde auquel elle est supposée appartenir, machin, tout ça, sauf qu'il n'explore jamais l'univers qu'il a créé, quoi. C'est-à-dire que l'école de magie, tu y arrives en...
Enfin, mais parce qu'il est pas prêt.
Ouais, en fait, il n'y a rien derrière. En fait, t'as l'impression en fait, de voyager dans... C'est comme si tu voyageais dans un studio de cinéma Ghibli, oui, et t'avais des paravents avec les dessins, mais rien derrière. C'est comme... Et
en fait, ouais, c'est l'école de magie, s'il avait développé, on aurait tous été les premiers à sauter dessus, dire Harry Potter et compagnie.
Non, mais alors,
voilà, c'est juste un arrière-plan.
Il y a 40 minutes.
Voilà, c'est juste un arrière-plan.
Ou alors, il n'est pas du tout inventif, si c'est pas une école de magie différente de celle d'Harry Potter.
Non, mais c'est juste un arrière-plan. L'histoire va vers autre chose.
Le reste est inintéressant au possible.
Harry Potter 3 ou pas?
Alors, c'était. Moi, je me suis tapé tous les Harry Potter et j'ai vu Marie et la fleur de la sorcière juste après, et c'est aussi pour ça que j'en pouvais plus des sorcières.
Et c'est quoi le mieux, Harry Potter ou Malfoy?
C'est mieux Quaron ou c'est mieux ça?
Le mieux, c'est La caméra de Claire de qui est le film suivant dont nous allons parler maintenant. Donc, il était en salle le 7 mars. Je crois qu'on en a beaucoup parlé.
Oui.
Je tenais à le mettre parce que.
Ça, c'est pas long, pareil. Hein.
Quand même, depuis la dernière fois, il y a eu un article dans Paris Match sur la relation entre Hong Sang-soo et Kim Min-hee. C'est quand même assez extraordinaire que des gros médias comme ça
parlent. Bravo Paris Match.
Est-ce que c'est le cinéma de Hong Sang-soo qui les intéresse ou c'est plutôt...
Je suis pas sûr. J'ai lu l'article, il y avait des photos du couple. C'était au début du mois de mars lors de la sortie du film. On a appris en plus, il y a eu des rebondissements. Vers le 10 mars, il y a des paparazzi coréens qui ont dit que peut-être Hong Sang-soo aurait largué.
Alors selon Morandini, ils sont toujours ensemble.
Selon Twitter.
Mais là, tu as spoilé donc Twitter, le troisième acte. Et en fait, du coup, Kim Min-hee serait toujours sous la caméra de Hong. Vu que le couple reste encore soudé, mais donc c'était pour faire ce petit aparté Paris Match.
C'est pour caler Hong Sang-soo dans le podcast.
Que je voulais parler de la caméra de Claire. Après, sinon c'est très bien, voilà.
Mais comme d'habitude.
Il y a eu peur, donc c'est bien. Pas une fille, mais il y a eu peur, donc c'est forcément bien. Ça peut pas être pas bien s'il y avait du père dedans.
C'est très bien, c'est
très
bien.
Elle est pas bon. C'est Charles Bouzon, mais c'est un autre.
Bon, après, on peut dire que les films d'Hong Sang-soo avec Isabelle Huppert sont pas forcément les meilleurs. Mais en tout cas, si vous l'avez pas vu.
J'ai pas vu celui-là, mais In Another
Country. Non, c'était très bien.
Je suis là de niveau, mais Isabelle Huppert, c'est forcément bien, donc tu peux juste pas dire ça.
Moi, je peux juste dire un petit truc, j'ai pas vu ce film-là, mais à la fois, c'est une bonne nouvelle qu'il continue à garder sa muse, mais j'ai un petit peu peur qu'il tombe dans une impasse. À force de mettre un peu en abîme sa relation avec cette jeune femme. C'est-à-dire que c'est ce qui me mettait un peu à distance de son dernier et quand même assez beau film, Seul sur la plage la nuit, qui pour moi était presque un peu trop un discours autour de sa réputation suite au début de sa relation avec cette actrice.
Bah là, il a fait trois films là-dessus.
Les trois films, c'était un peu
Et bien le dernier, c'est encore. Carrément, c'est au centre, il y a un adultère, il y a une question de.
Le jour d'après.
Parce que.
Ouais, le jour d'après aussi.
Pour le coup, c'est bien le jour d'après.
On les a vus.
Le jour d'après, c'est le seul Hong Sang-soo que j'ai aimé.
Mais justement, parce que je pense qu'il y a une vraie photo, et du coup, c'est aussi la présence de Kim qui l'oblige à avoir un travail sur la lumière, mais qui peut délaisser par ailleurs. Enfin, moi j'adore le cinéma d'Hong Sang-soo, ça me dérange pas qu'il puisse passer d'un travail sur la lumière et la photo à un travail sur la narration ou sur le cadre. Mais en tout cas, il y a aussi ce fait qu'on a vu les films dans le désordre. La caméra de Claire a été tournée en premier, en fait.
Oui, c'est ça.
C'était
à Cannes 2016.
Exactement. Ouais, donc il a plus d'un an. Seul sur la plage de la nuit a été tourné en second. Et ensuite, on a le jour d'après. Oui, donc on les a eu en fait dans le désordre complet. Ce qui fait que l'évolution nous paraît un peu étrange chronologiquement.
Tu tournes beaucoup autour de cette question de l'adultère. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment un peu devenu son thème depuis 2-3 films.
Culpabilise peut-être un petit peu.
On a l'impression qu'il y a un côté un peu psychothérapie.
Surtout qu'en plus, dans le dernier, dans La caméra de Claire, c'est une histoire d'adultère. C'est entre une employée, puis son épouse et sa productrice dans le film. Donc c'est vraiment.
Ouais, en plus.
Voilà, on a compris.
Culpabilité.
Donc.
Enfin voilà,
si tu veux conclure.
Non, tout ce que je peux dire, c'est que son dernier film que j'ai vraiment aimé, c'était Yourself and Yours, qui est sorti il y a un an, et qui pour moi, c'était aussi un peu le début de sa collaboration avec Kim Min-hee. Et j'aimerais qu'il retourne un petit peu plus un peu dans ces scénarios à multipistes comme ça, où on ne sait pas totalement comment se situer sur l'identité des personnages. Mais je trouve que le recentrage lui va pas si bien que ça.
Mais le jour d'après, c'était le cas. Tu l'as.
Oui, je l'ai vu et je l'ai vu. Il y a effectivement cette discontinuité temporelle, mais je vois un petit peu trop où il veut en venir aussi. Il y a quand même des petites choses à travers la femme trompée qui font qu'on retrouve.
Bon, en tout cas, on verra l'évolution. Là, son dernier est déjà fini, hein, donc on verra l'évolution effectivement de son cinéma et on en reparle au prochain podcast.
Bien sûr.
Très certainement.
À chaque podcast.
Forcément.
Mais en tout cas, aller voir La Caméra de Claire avant qu'il disparaisse des salles, tout comme le nouveau Kiyoshi Kurosawa avant que nous disparaissions.
Oh. Des salles.
Qui veut en parler ?
C'est pareil, on en a déjà beaucoup parlé. En
fait. On a déjà beaucoup parlé, alors. Voilà, c'est bien, c'est en salle depuis.
J'ai détesté le film.
Ouais, ça, pour moi, c'est tout juste. Tout le monde aime bien sauf Martin.
C'est en salle depuis le 14 mars.
Paul, next.
Tu veux dire, c'est un mot.
Si tu.
Alors, j'ai pas vu le film.
Allez, next.
Mais. juste, mais voilà, je me suis rendu compte, au vu des deux derniers films de lui sortis l'année dernière, qu'il y a quelque chose qui me pose un petit peu problème de plus en plus avec le système Kurosawa. Déjà, je trouvais que son film français, Le mystère de la chambre noire, ou
Le secret était... de la chambre noire.
Le secret de la chambre noire était catastrophique.
Les problèmes d'immobilier dans le 77.
Voilà. Quant à son film creepy, je trouvais que pendant la première heure, il y avait quelque chose d'assez formidable. Mais que dans la deuxième, c'était d'une lourdeur scénaristique assez incroyable. Quoi. C'est-à-dire qu'il est très fort pour installer le mystère, pour distiller le mystère sur des plans un peu incertains. Mais alors, à partir du moment où le mal est affirmé et où on a compris que le personnage que l'on soupçonnait est bel et bien celui que l'on pensait, je trouve qu'il a une manière de surappuyer sur la manifestation du mal qui rend son film assez bâtard quoi, dans sa mise en scène même. C'est quelque chose que j'avais déjà entreaperçu dans certains de ses films, même si j'adore Sokujai, même si j'aime beaucoup Tokyo Sonata. Quelque chose dans l'écriture, en tout cas dans la trame scénaristique du cinéma de Kurosawa, me semble de plus en plus lisible. Et voilà, pour moi, c'est peut-être un cinéaste un peu surestimé, finalement. Oh,
Martin.
Enfin, moi, je trouve que c'est pas un peu surestimé, c'est qu'il est carrément surestimé.
Ouais, on peut le dire.
Non, mais, je bois, là.
Mais, voilà, vous avez largement l'occasion d'en parler dans les précédents podcasts.
Tu te rends compte la porte que tu as ouverte,
voilà. Ah, bah, tant mieux.
Moi, j'y vais. Hein.
Voilà, pour moi, c'est un film concept. Et en fait,
on revient sur Avant que nous disparaissions.
Du coup. Voilà, Avant que nous disparaissions, pour moi, est un film concept. Et le seul concept qui l'ouvre, c'est celui du navet.
Waouh.
C'est vraiment sur l'amour.
Non, non. L'amour. Ouais. Alors, si vous voulez, c'est servi en effet sur une réflexion sur l'amour, mais là, on est presque le cinquième élément de Luc Besson, quoi. Voilà. C'est vraiment.
Cinquième élément de Luc Besson.
C'est vraiment une réflexion hyper adolescente.
Elias, dis pas n'importe quoi, s'il te plaît.
Sinon, toi. Hein, non, c'est vraiment. J'ai trouvé ça complètement idiot. Enfin, hyper appuyé. Ouais. Tous ces personnages qui se restent là un peu plantés, rêveurs, en train de sortir des concepts idiots, et puis tout à coup, t'as l'extraterrestre qui arrive, tiens, je t'arrive le concept, et puis l'autre il reste, oh, je sais plus quoi faire! Non, c'est complètement idiot, il y a des personnages qui savent pas quoi. Enfin, je me souviens bien, t'as un journaliste qui court un peu à droite à gauche comme un dératé, et il ne sert à rien si ce n'est à plomber l'intrigue. La mise en scène, elle est pas tout au possible, ses plans séquences sont complètement foirés. Les acteurs ils sont plus perdus que leurs personnages. Et vraiment, mais c'est cette fin, ce n'est pas possible, quoi. Et ça se veut philosophique, mais vraiment, c'est le niveau philo d'un cours de terminale, quoi. C'est vraiment
c'est ça que j'ai bien aimé,
teubé, quoi, comme c'est pas permis, quoi.
Alors, Elias, peut-être pour répondre, du coup, je ne pense pas qu'il y ait un débat comme ça sur Kurosawa.
Non, mais en vrai, je me mets en défenseur, mais c'est un film que j'aime bien, mais je crois que j'ai préféré Creepy par exemple de Kurosawa l'année dernière. Enfin, voilà.
Le problème, c'est que moi, j'aurais voulu voir Creepy, j'étais vraiment impatient de le voir, et j'ai vu celui-là avant. Mm. Et ça m'a tellement dégoûté de Kurosawa.
Mais après,
je peux plus avoir.
Tu peux pas me dire que la scène où il enlève le conseil de famille de la fille, qu'elle se met à genoux, qu'elle se met à pleurer, etc., c'est pas une des plus belles scènes de l'année dernière.
J'ai rigolé.
Là, t'as un problème psychologique, c'est pas de ma faute.
Non, j'ai pas un problème psychologique. La façon dont elle a amené, c'est
un problème
grossier et débile. J'étais là, mais sérieux, mais. Et
après, t'aimes Spielberg.
Oui, j'aime Spielberg.
Et moi, ça on arrive à Spielberg, pas de comparaison.
Mais du coup, bon, Kurosawa, c'est pas possible d'attendre des
Kefren.
Comme ça, je crois.
Mais dans la posture.
Alors, voilà, juste Kefren.
Dans la posture.
Non.
Kefren, un mot pour répondre sur Kurosawa. Posez-vous.
Non, il y a tellement de choses qui ont été dites.
T'es sûr avant que nous disparaissions.
Il y a tellement de choses pas bien, surtout la barre de Sidi, je pensais pas qu'il allait faire une telle traîtrise.
Il fallait que je le sorte, j'en ai profité.
Pour le trouver là,
c'est le niveau de Bégodo sur la saillette. Pas bien. Et genre, bon.
Recentrons-nous sur avant que nous disparaissions.
Non, mais en fait, c'est un très beau film parce que justement, il vient juste après Creepy, qui est un film hyper noir et sombre qui retournait dans la veine que Kurosawa avait à la fin des années 90 avec Cure...
Charisma.
etc. Et tous ces films, séances, etc. Très pessimistes, très apocalyptiques, justement, parce que c'était la fin du siècle et le début d'un nouveau. Et il exorcise un peu tout ça avec Creepy pour retourner à des plaisirs plus simples de cinéma avec Avant que nous disparissions, qui est un cinéma assez naïf en fait, et d'une naïveté qui lui le plaît originellement dans le cinéma, c'est-à-dire un cinéma de science-fiction comme il pourrait le faire les cinéastes américains dans les années 80 ou même avant. Et c'est pas un cinéaste, et c'est pas un cinéma qui a des proportions ultra philosophiques, mais c'est un cinéma conceptuel et naïf. Ça veut dire que il expérimente des choses, il se permet des audaces formelles et même des directions d'acteurs assez comme ça.
Il est persuasif.
Ces acteurs jouent mal. C'est
non, il joue pas mal. On peut pas dire que Rio Matsuda joue mal.
Il est pas mauvais,
Matsuda. Au contraire, justement, dès le début du film, on le voit tomber comme ça encore. On sait déjà qu'il y a une direction qui a tout un dispositif autour de lui. On le voit marcher, tomber comme un pantin désarticulé, et on sait qu'il y a tout un jeu et tout un dispositif dans le film. Et que justement, c'est de ça dont il est question dans ce film, c'est comment Kurosawa tente de mener une histoire comme ça, totalement interlope.
Il est content.
J'ai l'impression que tu cherches des excuses en réalité.
Non,
bah, c'est juste
non c'est pas des excuses, c'est ce qu'est le film. Le film est une espèce d'aventure naïve, comme ça.
C'est plus que naïf,
expérimental, c'est ultra expérimental, c'est-à-dire il fait des choses que personne ne fait actuellement dans le cinéma, c'est-à-dire il croit au cinéma, il croit en ce que le spectateur puisse croire en l'image qu'il propose et puisse croire en récit qu'à travers l'image, c'est-à-dire il te dit les extraterrestres ils font ça et t'es censé le croire, c'est-à-dire il n'y a pas de super méga effets spéciaux comme dans les films américains.
Mais j'ai pas besoin de ça, enfin, des choses comme ça.
Et justement c'est ultra minimaliste, et quand on parle des plans séquences, c'est que justement Kurosawa, c'est un maître de l'espace. C'est-à-dire, il maîtrise totalement la mise en scène de l'espace. Et quand il fait ses conséquences, on y croit parce que justement, il a réussi à concrétiser son concept à travers cette appropriation de l'espace et de comment il gère ses corps dans l'espace. Et tout ça prend vie. Et c'est pour ça qu'on y croit et qu'on suit, même si c'est très naïf et même si lui, il est très premier degré dans le traitement de cette naïveté. Et c'est justement grâce à la maîtrise formelle qu'il a actuellement qu'on peut croire des expérimentations pareilles.
Ça reste quand même un cinéaste du pléonasme.
Bah, pour moi, excuse-moi, après, voilà, moi je suis peut-être pas si naïf que toi, donc voilà, j'attends peut-être autre chose du cinéma.
Quand oui, j'ai mais justement, ça, si on n'est pas naïf, on peut voir quand même
l'expérimentation. Ok, je suis en face de toi.
On peut quand même voir l'expérimentation qui.
Mais pour moi, elle ne fonctionne pas. Ça n'a pas du tout marché. C'est-à-dire que ça lui coûte en arrière
C'est possible, mais quand même, il y a une certaine audace à tenter ce genre de film aujourd'hui quand on s'appelle Kiyoshi Kurosawa, quand on fait Shokuzai.
Shokuzai, je trouve ça fou.
C'est possible. Un mot d'Elia, c'est un mot de Nicolas pour conclure sur.
Moi, j'ai des trucs à dire.
Sur ce débat lancé par Sidi.
Sidi, fouteur de merde.
Ben voilà, le troll.
Moi, il y a un truc que je trouve. Genre, quand Martin dit que Matsuda joue mal, c'est la même chose que dire que l'univers Coloni joue mal dans Phenomena d'Argento. C'est-à-dire que c'est vraiment une décision d'acteur, une décision de mise en place
de direction d'acteur, tu veux dire.
Ouais, direction d'acteur, excusez-moi.
Argento est un très mauvais directeur d'acteur.
Mais c'est voulu. Non, mais oui, c'est
très mauvais directeur d'acteur.
C'est totalement voulu. Pour l'exemple, le Phénomène, c'est évident.
Putain, il n'a jamais su dire la régie de
On s'écarte du sujet, mais on voit le.
Voilà. Et je trouve que c'est vraiment une décision qui tient que là-dedans. C'est-à-dire que dans ce qui est faux, pour moi, Kurosawa a déjà montré plusieurs fois qu'il savait faire des films qui étaient bien faits dans tous les domaines. Et donc, s'il a un truc qui sonne faux, pour moi, à mon avis, je pense pas que ça soit devenu assez feignant pour faire un truc où c'est bon, on s'en fout, c'est arrivé ou mal, c'est pas grave. Je pense vraiment qu'il a vraiment une volonté de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et par rapport à la naïveté de Kefren, évidemment, moi, ce qui m'a vraiment choqué dans le film, c'est le message, au final, extrêmement positif et extrêmement presque une temps. Non, même pas presque, totalement niais sur l'amour et sur la volonté, etc., de ce sentiment. Et au final, tous les chemins qu'il prend, tous les changements de ton, les changements de rythme, les changements de type de film, passe du thriller au film d'action, au film, etc. Tout ça pour arriver au final au message qui est l'amour est au-dessus de tout. Moi, je trouve ça naïf, mais d'une naïveté qui me fait du bien, qui est agréable, et de donner un message aussi positif à un film qui est aussi compliqué à appréhender et à regarder, parce que c'est un film qui est pas lisse, qui passe par beaucoup de choses, qui voilà, qui est pas évident.
Mais je suis d'accord avec ça.
Et je trouve ça génial d'arriver à ça avec un film comme ça.
Alors Nicolas, c'est un mot pour conclure.
En fait, il a à peu près dire ce que je voulais dire. C'est juste, en fait, moi j'aime beaucoup le film, mais je comprends tout à fait en fait qu'on soit complètement décontenancé en le voyant. C'est-à-dire que c'est un film pas évident à regarder du tout, ne serait-ce que dans les notions de rythme et de mise en place des enjeux du récit ou de la manière dont il voyage d'un genre à l'autre. C'est-à-dire que c'est un film en fait, c'est pas quelque chose qui va, c'est un film casse-gueule en fait. C'est un film où il expérimente, comme tu disais, Kéfren, et des fois ça marche peut-être moins. J'en sais rien, des fois je trouve que ça marche bien et on voyage à travers, en fait on voyage à travers ce film dans une vision de cinéaste qui évolue en permanence sur le genre, sur la manière de raconter une histoire, sur la manière de développer des thèmes comme justement l'amour et voilà, et c'est un film, c'est vraiment, on pourrait dire c'est un film imparfait dans le sens le plus large possible, avec tout ce qui est positif et négatif au terme imparfait en fait. Et voilà, c'est ce qui le rend aussi unique, entre guillemets, et aussi passionnant.
Moi, pour moi, je trouve que c'est un film raté.
Mais voilà, imparfait, il y en a qui le trouveront raté, d'autres qui le trouveront réussi, mais c'est quelque chose, c'est un film qui tente au moins, qui tente de faire du cinéma, qui tente de repousser les limites de certains genres.
Je suis pas
sûr. C'est complètement compréhensible que certaines personnes ne rentrent pas dans le film. Moi, ça, c'est normal pour moi.
Par contre,
c'est
que
c'était
à 10, c'est
grave. Très bien. On y reviendra. On y reviendra.
Pour moi, c'est une fausse valeur, mais il a quand même réussi quelques petites choses.
Je vous propose
re-regarde Kyo.
On pourra reprendre ce débat. On pourra reprendre ce débat le mois prochain. On pourra reprendre ce débat le mois prochain dans la mesure où Invasion, le nouveau film de Kurosawa, sort. On
met. Et si dit, t'as l'air de revenir.
Quitte un spin-off,
on verra. Ça va dépendre de la suite.
Une série.
Alors, on va passer à un sujet tout à fait différent, parlant de Demons in Paradise, qui est donc un film de Jude Ratnan, qui est en salle depuis le 21 mars et que tu as vu, Sidi.
Oui, c'est un documentaire donc qu'il a dû réaliser vers 2016. Jude Ratnam est un Sri Lankais qui a connu en 1983 un événement assez méconnu qui s'appelle le Juillet Noir, c'est-à-dire que des Tamouls, puisqu'on sait que depuis 1948 et la décolonisation cohabitaient au Sri Lanka le peuple tamoul et le peuple singhalais, et en 1983 le gouvernement singhalais a massacré beaucoup de familles tamoules parmi la famille du réalisateur Jude Ratnam a dû fuir pour se sauver la vie. Et il revient donc plus de 30 ans après sur ce traumatisme, et il va essayer de retrouver des personnes qui ont vécu ce moment historique assez sanglant, qui est assez proche d'un génocide. Et il va aussi un peu re-questionner la formation de ce que l'on appelle le groupe des Tigres Tamouls. C'est-à-dire que c'est créé une sorte de plusieurs groupuscules de résistance qui sont finalement devenus aussi à leur tour des groupuscules d'oppression. Et la fin de la guerre civile date seulement de 2012, et encore pour lui, pour le cinéaste, cette fin n'est qu'une fin d'apparence, c'est-à-dire qu'il reste encore des tensions politiques très vives. Et ce film, certains le comparent assez à juste titre à S21 de Ritipan, et peut-être même, pour aller très loin, au film de Claude Lanzmann, Shoah, oui, parce que à travers la parole et parfois à travers sa manière de filmer des lieux où s'est passée l'horreur, l'utilisation des photos est assez intéressante aussi. Et aussi la manière dont certains tigres tamouls évoquent la manière dont ils ont tué des gens. Certains le regrettent, d'autres moins. Il y a une vraie force qui tient à ça, quoi, qui tient à cette incarnation par la parole. Et il y a une manière aussi qu'a le cinéaste de se mettre en scène, de se montrer tel qu'il a dû survivre, en mettant certaines tenues qui le rendaient un peu passe-partout, qui fait de ce documentaire quelque chose d'extrêmement sensible, assez expérimental d'un point de vue formel, mine de rien, et c'est un film à voir, oui, voilà.
Kéfren, est-ce que ça ressemble au film de Joshua Oppenheimer, The Look of Silence?
Je ne l'ai pas vu. Donc, mais en tout cas, oui, c'est un film qui traite d'un sujet qui, je crois, intéresse très peu de monde en dehors de son territoire. Donc
il est en salle depuis le 21 mars. Je pense qu'on peut encore le voir en ce moment à Paris, peut-être dans quelques salles en province. Donc dépêchez-vous effectivement d'aller le voir.
Tu l'as pas vu?
Non, d'accord. Je l'ai pas encore vu. Dernier film de cette section asiatique, c'est The Third Murder de Koreeda, qui sort en salle le 11 avril. Martin, Nicolas, vous l'avez vu tous les deux.
Oui.
Qui veut le présenter? Je crois que... Allez, Nicolas. Je crois que t'as le plus aimé, Martin, avec la confrontation avec Coréda, qui pourra nous raconter.
Bah, disons que c'est encore un film auquel je repense et que je ne sais toujours pas si je l'aimais ou pas. Parce que c'est vraiment un film très spécial dans la filmographie de Coréda. C'est vraiment la première fois, peut-être, qu'il l'explore. Enfin, il y avait déjà eu Erdol qui était assez spécial dans sa filmographie, mais là, c'est la première fois qu'il change vraiment de genre complètement, quoi. Enfin, c'est vraiment le film. C'est pas vraiment un thriller, c'est un petit côté thriller, mais c'est surtout un film de procès aussi, où, en fait, pendant tout le film, on va suivre un groupe d'avocats qui va défendre un meurtrier supposé de qui a tué un homme, je crois que c'est son patron.
Exactement.
Son patron, ouais. Et en fait, la première scène, c'est on le voit tuer son patron. Donc, ouais. Et en fait, ce qui est très troublant dans le film, c'est qu'il nous montre tel quel le personnage, le meurtrier, tuer le patron. Et après, il va nous instiller un doute tout le long du film pour savoir si c'est vraiment lui qui a tué le patron. Quoi. Ouais. Et c'est là où l'ambiguïté du film se joue. Et je trouve ça plus ou moins bien géré, on va dire, tout le long du film. Et on sent qu'en fait, que Coréda explore un nouveau genre qu'il ne maîtrise pas totalement. Ça sent que ce soit dans la manière de rythmer son film, parce que le film est très 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 bavard, c'est que des scènes de dialogue pendant 2 heures, quasiment, plus de 2 heures même. Et à ce niveau-là, en fait, Coréda, ça marche beaucoup, parce que même si c'est toujours des films de plus de 2 heures, on est emporté un peu dans le mouvement des personnages, on va dire. Que ce soit des enfants ou des jeunes, comme dans notre petite... une famille de jeunes sœurs, tout ça, on est toujours emporté dans une espèce de voyage à travers eux, on est en empathie avec eux, et là, pour la première fois, peut-être, on est moins en empathie avec les personnages, parce que, bon, forcément, on suit l'avenir d'un meurtrier derrière les barreaux, l'équipe d'avocats est un peu, montrée d'une manière un peu trop ancrée dans le système, on va dire, et en fait, là où le film, quand même, est intéressant, c'est cette manière de troubler les lignes, en fait, entre les personnages, par rapport à ce qu'on peut en penser du tueur, de son acte, des familles qu'il y a autour, qui ont aussi une place dans le récit. Et il y a quand même une relation intéressante entre les différents personnages qui est typiquement coréen-inien, je ne sais pas comment on peut dire, mais qui vient du cinéma de Coréen en tout cas. Mais le film est vraiment trop long, trop bavard, et la fin, et j'ai toujours pas compris la fin, en fait, j'ai toujours pas compris ce qu'il a voulu dire dans la fin, en fait. Mmh. Il essaye d'instaurer un espèce de doute.
C'est pas la peine de nous.
Tu diras dans l'interview, il explique en gros ce qu'il veut dire.
Ouais, j'ai pas vu l'interview.
Donc maintenant, on a une interview qui est en ligne actuellement. Est-ce que, du coup, t'es assez d'accord, je crois, avec Nicolas
Je trouve intéressant de voir Coréda va être exploré d'autres genres, même si c'est lui, il cherche pas forcément à s'inscrire dedans. Quoi. C'est déjà dans le premier film qu'on a eu en salle en France, c'était déjà un film fantastique, Afterlife. Donc, et après, il a tenté pas mal d'autres choses. Donc, il a même fait un film de samouraï qui n'est jamais sorti en France, hein, Hana. Donc voilà.
Sortira peut-être en vidéo prochainement.
Oui, voilà. Les Anglais le sortent en Blu-ray en tout cas. Voilà, enfin, c'est une variation sur les 47 Ronins. Et donc bon, là, il fait une parenthèse, tel qu'il a dit. Hein, voilà, il est arrivé au bout en tout cas de cette thématique, justement, le film intime en tout cas sur ses relations père-fils et tout ça. Et donc l'idée lui est venue, en fait, d'une discussion qu'il a eue avec un avocat qui lui a dit qu'en fait, ce qui se passait en fait dans les tribunaux, c'était pas du tout affaire de vérité. En fait, on a juste les peines. Et en fait, c'est là-dessus qu'il a voulu développer ce film. Et ce que je regrette au film, c'est qu'on voit tout de suite, en fait, le canevas, en fait, qui est beaucoup trop voyant. Quoi. C'est-à-dire que les relations, les faits perfides qui apparaissent dans le film, elles sont un peu grossières, je trouve. On voit très bien, très vite la finalité, mais c'est pour moi, c'est l'un des rares films qu'il a fait qui sont pas du tout subtils, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment avec ses gros sabots, c'est extrêmement démonstratif dans sa mise en scène, extrêmement démonstratif dans ses dialogues, c'est très surligné à chaque fois. Alors, après, en effet, ce qu'il veut dénoncer, c'est très très intéressant, et puis c'est assez troublant, quoi. Donc il joue justement sur notre propre relation avec la réalité. Et puis même avec propre relation avec la mise en scène aussi. Tout est affaire de point de vue, donc voilà.
Après, c'est vrai que c'est un peu démonstratif à certains moments, mais il y a quand même une extrême maîtrise de la mise en scène.
Ah, mais je dis pas qu'il maîtrise pas la mise en scène, mais pour le coup, l'écriture est vraiment lourde dans ce film. Il aurait pu vraiment resserrer, peut-être Disons qu'il y a amener quand même, le film de manière un peu plus différente.
Il y a quand même quelques plans marquants, quoi. Il n'investit pas juste le genre en amenant sa mise en scène habituelle, il retravaille sa mise en scène pour l'habituer au genre.
Ah, mais de toute façon, c'est vraiment intéressant. L'utilisation du scope, enfin voilà, ouais, il y a quand même des choses qui sont quand même très intéressantes là-dessus. Mm. Voilà, c'est pas non plus il fait pas du Corrida Lambda. C'est voilà, vraiment, il se remet en cause et puis il essaie de faire vraiment quelque chose de neuf. Mais voilà, je trouve que le film avait été fonctionne pas très bien, quoi. Malheureusement, et ça me fait très de dire ça parce que j'adore ce cinéaste. J'attends toujours ces films avec énormément d'impression.
Après, c'est pas non plus c'est pas catastrophique, c'est-à-dire que c'est quand même intéressant à voir.
Oui, voilà. Mais
il y a des cinéastes qu'on adore.
Mais déjà sur les affiches, le nouveau chef-d'œuvre de Corrida.
Ouais, non, non. Arrêtez, quoi. Non, mais ça, c'est ma phrase de promotion, on s'en fout. Mais
est-ce qu'elle a bien
disons qu'il y a des cinéastes qu'on adore, hein, qui ont changé de genre, qui sont complètement ratés. Ah, c'est pas complètement raté non plus. C'est-à-dire qu'il amène quelque chose au genre quand même, même si c'est pas toujours réussi.
Ouais.
Ouais, voilà, je crois que c'est le mot de conclusion sur cet ensemble, sur les films asiatiques qui sont actuellement en salle. Maintenant, on va parler de quelques films qui ne sont pas asiatiques, mais qui se passent en partie en Asie, ou pas du tout, avec le Keshige, dont on vous a promis un débat depuis le début de ce podcast.
Mais l'Eurasie, c'est partout. Hein.